Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Frères et sœurs de Radio Présence, nous sommes arrivés dans notre lecture des deux livres de Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, à ce désastre royal qu'est la défaite des montagnes, sur les montagnes de Gelboé, et où meurt le roi Saül, le premier roi d'Israël, et qui avait été rejeté par Dieu de toute manière depuis déjà assez longtemps, et son fils Jonathan, l'ami de David, comme nous le savons. Nous allons revenir là-dessus. Et le mystère de la personne de Saül nous échappe en partie, et il nous est sympathique par certains côtés, et il a été faible et infidèle, infidèle parce que faible surtout, mais en même temps, nous ne devons pas un petit peu garder de lui un souvenir uniquement négatif. Donc je ne veux pas non plus, avec les réflexions qu'on peut avoir maintenant, réhabiliter totalement Saül, et dont l'Écriture souligne suffisamment les fautes et les faiblesses. Mais les réflexions que nous pouvons faire ensemble maintenant veulent surtout suggérer qu'il ne faut pas enfermer un homme dans son péché. Et ceci nous touche particulièrement au moment où nous venons d'apprendre, que, comme vous le savez, frères et sœurs qui le connaissiez, la zone d'ombre importante de Jean Vanier, et dont nous venons d'apprendre qu'il avait une vie, sinon double, mais une vie quand même marquée par les inconséquences ou les incohérences de sa vie. Et le plus souvent, en effet, souvenons-nous que l'homme et le mystère de chacun d'entre nous dépasse la faute ou dépasse nos fautes. Et c'est d'ailleurs pourquoi il ne nous est pas possible de juger. On a le devoir de juger les actes, mais on ne juge pas pour autant la personne. Le rejet dont Saül a fait l'objet, et dont il est responsable tout de même, porte sur sa fonction royale. Et rien ne permet de supposer qu'il entraîne une réprobation définitive, et qui n'est pas d'ailleurs dans les perspectives du texte que nous commentons. Samuel lui prédit seulement qu'il viendra le rejoindre très vite dans le séjour des morts. Et c'est, vous savez, c'est la demande qu'il avait faite à une nécromancienne à Endor, et finalement il avait été suscité par cette nécromancienne, et Samuel lui avait prédit qu'il viendrait le rejoindre très vite dans le séjour des morts, ce Sheol, comme on l'appelait, où survivaient pêle-mêle les justes et les pécheurs, dans un univers où l'existence se poursuivait sombre et diminuée. Et les deux récits, d'ailleurs, de la mort de Saül laissent plutôt une impression de respect, confirmée par la complainte chantée par David, sur laquelle nous allons revenir. Le premier récit de la mort de Saül raconte la fuite des Israélites devant les Philistins, vous savez, les ennemis jurés, les voisins. La mort des trois fils de Saül, Jonathan, que nous connaissons bien, Abinadab et Malki-Shua, puis celle du roi lui-même, Saül. Il n'est pas très facile de se représenter la fin de Saül. Le rédacteur le présente gravement blessé par les archers, mais point tué, bien que le poids du combat, comme dit le récit, se fût porté sur lui. C'est le premier livre de Samuel au chapitre 31e. Il est curieux que, reconnu par les Philistins, ceux-ci ne se soient pas emparés de lui et ne l'aient pas emporté mort ou vif comme un trophée, ainsi qu'ils le feront le lendemain. Et un dialogue insolite s'établit entre le roi et son écuyer en plein champ de bataille. Et le roi lui dit à son écuyer, en effet, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne se jouent de moi. » Et peut-être Saül a-t-il voulu éviter d'être fait prisonnier par ses ennemis, ce qui eût été pour lui une ultime humiliation. Noblement, semble-t-il, il choisit de mourir et donne à son écuyer l'ordre de l'achever. Et comme celui-ci ne peut s'y résoudre, et on le comprend, il se donne lui-même la mort en se jetant sur son épée. il n'avait sans doute plus la force de la saisir. Son écuyer, ensuite, n'avait plus qu'à faire de même. Il ne s'agit pas, mes frères et sœurs, c'est d'autant qu'on puisse le dire, il ne s'agit pas de suicide, mais d'un acte courageux de guerrier acculé à la mort pour échapper à l'ennemi. Et le cas se présente d'ailleurs plusieurs fois dans la Bible, soit qu'il soit jamais blâmé. Et qui songerait d'ailleurs à condamner de nombreux faits d'armes analogues dans les dernières guerres, ou dans les guerres présentes, où des soldats, plutôt que de se rendre, font sauter le retranchement. Et l'Écriture ne rapporte d'ailleurs que deux cas de suicide proprement dit. Le premier concerne Ahitophel, conseiller apprécié de David, passé dans le camp d'Absalom, et qui va s'étrangler chez lui le jour où son avis n'est plus suivi. Et le second est celui de Judas, que nous connaissons tous. C'est deux cas de suicide proprement dit dans toute la Bible. Et au lendemain de la bataille de Gelboé, du désastre de Gelboé, les Philistins viennent détrousser les cadavres. C'est alors seulement qu'ils identifient Saül et ses trois fils. Ils lui tranchent la tête, et comme David avait fait à Goliath, et portent sa dépouille en triomphe dans leur pays et vont jusqu'à clouer son corps au rempart d'une de leurs villes. Ainsi, le premier roi d'Israël, le premier Messie, vous savez, Messie, Machiach, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, a été crucifié, mais après sa mort. Impressionnant, crucifié après sa mort et décapité. La première version du désastre achève la geste de Saül sur une note positive, celle de la reconnaissance. Et nous y reviendrons pour le prochain épisode. Et à bientôt, chers amis de Radio Présence.